fabrique politique. Bonjour, il est 13h sur Campus Grenoble, bienvenue dans la Fabrique politique, l'émission qui explore l'univers des politiques publiques, qui retourne les institutions comme des gants et tente d'en révéler les coutures. Qui fait quoi, qui décide pour qui, où, quand, comment et pourquoi les machines à produire notre monde commun tournent comme elles tournent. Voilà ce qui nous intéresse, la petite musique derrière les grands discours. Pour ce 8e numéro, on s'attaque à un monde complexe et méconnu du grand public, le monde de la finance. Un univers qui peut faire peur, même aux plus souples et aguerris des hommes politiques.
Mais avant d'évoquer mon projet, je vais vous confier une chose. Dans cette bataille qui s'engage, je vais vous dire qui est mon adversaire, mon véritable adversaire. Il n'a pas de nom, pas de visage, pas de parti. Il ne présentera jamais sa candidature. Il ne sera donc pas élu. Et pourtant, il gouverne. Cet adversaire, c'est le monde de la finance.
Alors une fois posée cette sourde angoisse qui semble étreindre François Hollande en 2012 et parfois le commun des mortels à l'évocation des cracks boursiers, des loups de Wall Street, des pluies de dollars sur les paradis fiscaux, des cols blancs à gros cigares, j'ai une proposition à vous faire, tentez d'y voir plus clair sur comment ça se passe en vrai. Qui sont les acteurs du monde de la finance? Comment interagissent-ils? Quelles sont les règles qui cadrent leur terrain de jeu? Quelle place tient la puissance publique dans ce domaine et les citoyens dans l'histoire? Bref, les obsessions habituelles de notre émission. Nous allons parler de tout cela avec notre invité, Arnaud de Bresson, qui est directeur général de Paris Europlace, l'organisation qui est en charge de promouvoir et de développer la place financière de Paris. Bonjour Arnaud de Bresson.
Bonjour.
Merci beaucoup de répondre à nos questions. Alors pour commencer, pour rentrer par du très concret et pour aider nos auditeurs, pour la plupart néophytes, je vous propose de passer en revue les acteurs de cette place financière parisienne et peut-être de commencer par le symbole de ce petit monde, en tout cas le symbole que nous on a en tête sans bien connaître, la Bourse. Arnaud de Bresson, la Bourse, est-ce que vous pouvez nous dire en quelques mots, d'abord est-ce que c'est bien l'institution qui est au cœur de la place financière et puis à quoi elle sert ?
La réponse est oui, la place financière c'est beaucoup plus que la bourse, mais en tout cas il est vrai que la bourse joue un rôle majeur au sein d'une place financière, en tout cas d'une place financière qui compte. C'est quoi la bourse? Le rôle de la bourse c'est d'apporter des financements aux entreprises et de rémunérer les épargnants qui apportent ces financements. Le principe de la bourse c'est celui du marché de village. D'un côté les entreprises qui recherchent des financements, en face des investisseurs qui peuvent être soit des ménages, des particuliers, le grand public, des épargnants, soit des investisseurs institutionnels. On y reviendra, les compagnies d'assurance, les grandes sociétés de gestion françaises et internationales, car nous sommes aujourd'hui dans un monde international. Et la bourse organise la rencontre entre les deux.
Et alors, on parle d'une bourse, là, comme s'il n'y en avait qu'une, mais j'imagine que c'est plus compliqué qu'il y en a plusieurs. Par exemple, à Paris, il y a plusieurs bourses. Il n'y a qu'un bâtiment, on dirait, mais est-ce qu'il y a plusieurs bourses à l'intérieur?
Oui, alors, il peut y avoir plusieurs bourses dans les différentes villes européennes. Il y a des bourses spécialisées sur les marchés d'actions. Il peut y avoir des bourses spécialisées sur les marchés dérivés, sur les marchés des métaux. Il y a beaucoup de bourses commodities, comme on dit, matières premières. À Londres, il y en a quelques-unes à Paris.
C'est-à-dire qu'on achète directement des matières premières, pas forcément des actions ou des choses financières. Ça peut être directement des produits, quoi.
Oui, ça peut être aussi des produits physiques. Okay. Il y a même une bourse du climat. On avait installé une bourse du climat, on y reviendra tout à l'heure, à un moment à Paris. Donc, il peut y avoir d'autres types de produits.
D'accord. Alors, si on sort de la bourse, vous le disiez il y a un instant, la bourse ne fait pas toute la place financière. Les autres acteurs clés d'une place financière, alors les autres auxquels on pense tout de suite, nous, c'est les banques. Est-ce qu'effectivement, ce sont les acteurs qu'on trouve dans cette place en premier lieu?
Alors, est-ce que je peux réagir en vous disant que moi, le premier acteur auquel je pense, c'est d'abord, c'est pas les banques, c'est même d'ailleurs pas la bourse, c'est d'abord les entreprises. Le modèle de Paris Europlace, ce qu'on a créé il y a une vingtaine d'années, c'est d'avoir montré que la cible première, le sujet premier de la place financière, ce sont d'abord les entreprises, les grandes entreprises, mais également de plus en plus aujourd'hui les PME, les start-up, etc. Parce que la place financière, elle est d'abord là pour servir les besoins de l'économie réelle des entreprises. Moi, j'y tiens beaucoup. Et c'est d'ailleurs ce qui nous distingue de Londres. Quand on a créé Europlace en France, il y a une vingtaine d'années, on a voulu faire le contraire du club des banquiers londoniens entre eux, la City.
Parce que la City, c'est beaucoup un club de banquiers, en fait, c'est ça que vous dites ?
Oui, elle a été conçue comme ça, d'accord. Elle est dirigée par les banques. Nous, on a voulu faire une place financière qui est dirigée par les entreprises. Et d'ailleurs, au début, les Anglais se moquaient un peu de nous. Depuis la crise financière, tout le monde a compris que notre modèle, il est quand même meilleur. Et aujourd'hui, le patron d'Europlace, c'est un patron d'entreprise. C'est Augustin de Romanet qui est président de l'aéroport de Paris. Parce qu'on veut mettre les entreprises au premier rang. C'est d'abord pour elles qu'on travaille.
D'accord. Mais alors, du coup, les banques, elles servent à quoi dans la place ? J'imagine qu'elles
Les entreprises, elles se financent par la bourse, elles se financent par les crédits bancaires. Le rôle des banques, c'est d'apporter des crédits. Elles jouent un rôle évidemment essentiel, également plus important que la bourse, dans l'apport de financement aux entreprises. 1 000 milliards de crédits apportés aux entreprises en 2017, en cours. 1 400 milliards de crédits apportés aux particuliers. Alors c'est vrai qu'on critique souvent les conditions de taux offertes par les banques, etc. Mais en tout cas, elles jouent le rôle essentiel de financement de l'économie dans un modèle quand même qui va évoluer à l'avenir. On y reviendra vers un peu moins de financement bancaire et un peu plus de financement de marché, mais c'est un autre sujet.
D'accord. Juste alors pour comprendre, c'est quoi la différence entre un financement bancaire et un financement de marché ? C'était l'un c'est la banque, l'autre c'est la bourse, c'est ça ?
L'un c'est le prêt bancaire, le crédit bancaire, et l'autre c'est l'achat de titres en bourse d'entreprise à travers les actions ou l'achat d'obligations, c'est-à-dire d'emprunts faits par les entreprises en bourse.
D'accord. Alors, à part les banques, à part la bourse, les entreprises, pardon, la bourse, les banques, on pense aussi à ces institutions financières qui semblent disposer de moyens colossaux. On parle des compagnies d'assurance, qu'on appelle les fonds de pension, les sociétés d'investissement. Elles sont là aussi, j'imagine, sur la place financière de Paris, ces institutions ?
Voilà, d'un côté les émetteurs, les entreprises qui sont les utilisateurs, de l'autre les investisseurs qui investissent dans les entreprises. Alors il s'agit des sociétés d'assurance d'abord, qui exercent à la fois une activité d'assurance, mais sont des investisseurs très actifs pour investir dans les entreprises. L'assurance vie aujourd'hui, ça représente 1 700 milliards d'euros investis dans les entreprises et dans les produits de long terme. C'est très important. Il y a ce qu'on appelle les gérants d'actifs et les asset managers en anglais. La place de Paris a une très grande force dans le domaine de la gestion d'actifs. C'est le premier pôle européen juste après Londres, le premier pôle d'Europe continentale, de grandes sociétés, 4 000 milliards d'encours gérés en France. Ça nous positionne très bien au plan international. Et puis, il y a aussi de plus en plus aujourd'hui le capital investissement qui prend des participations dans les start-up et qui aide le développement des nouvelles start-up et des nouvelles jeunes entreprises en France innovantes, qui est un terreau formidable de création d'activités. On en reparlera et qu'on accompagne, nous, à travers Europlace et le pôle de compétitivité Finance Innovation.
D'accord. Et alors, et les banques centrales dans l'histoire, parce qu'on n'en parle plus trop de la banque centrale en France depuis qu'il y a l'euro, mais finalement, c'est la banque centrale, les banques centrales, est-ce qu'elles interviennent dans la place financière ?
La réponse est oui. Alors, les banques centrales, elles ont un rôle simple, c'est d'appliquer la politique monétaire. Ça veut dire, un, assurer l'émission de la monnaie et de ce fait contribuer à fixer les taux d'intérêt. Deux, superviser le fonctionnement des marchés financiers. Et enfin, trois, sujet qui n'est pas moindre, jouer le rôle de prêteur en dernier ressort en cas de crise, lorsque les banques ont des difficultés pour pouvoir faire survivre le système financier.
D'accord. Alors justement, alors moi c'est le deuxième rôle, la solide supervision, effectivement, qui me questionne, parce que donc là on a un petit aperçu de tous les acteurs en place. La question c'est qui définit les règles du jeu. Alors est-ce que c'est ce que vous dites, est-ce que c'est les banques centrales qui ont ce rôle de définir les règles et de superviser que tout le monde les respecte ?
Alors les règles du jeu, elles sont définies par différentes catégories d'acteurs. D'abord, tout en haut, l'État, les pouvoirs publics et le Parlement qui vote les lois et qui définit les principes. Donc les principes sont définis par les lois, votées par le Parlement qui définit les modes de fonctionnement généraux. Et en dessous, d'un côté, les banques centrales qui exercent le rôle de conduire la politique monétaire alors de manière indépendante des pouvoirs publics depuis maintenant plusieurs années. Vous avez vu d'ailleurs que c'est un sujet aujourd'hui aux États-Unis où la Banque centrale est un peu influencée par les pouvoirs publics depuis l'élection de M. Trump, ce qui représente un petit sujet. Vous avez vu également le gouverneur de la Banque centrale d'Inde qui a démissionné parce qu'il considérait qu'il n'était pas suffisamment indépendant des pouvoirs publics, indépendante pour gérer un sujet, la politique monétaire, et notamment les objectifs en matière d'inflation, c'est-à-dire de conserver une inflation qui ne soit pas trop importante. Et puis de l'autre côté, il y a les autorités de régulation des marchés, et du système financier, l'autorité des marchés financiers pour les marchés boursiers et la CPR, l'autorité de contrôle prudentiel pour la banque et l'assurance, qui sont des autorités de régulation dont les rôles ont été fixés par la loi, mais qui exercent leurs activités de manière indépendante pour surveiller et contrôler le fonctionnement du système.
Alors, vous dites effectivement, c'est intéressant cette histoire de distinction entre, de l'indépendance pardon, de ces pouvoirs de contrôle. Par contre, ce qu'on se demande, c'est qui fait quoi, c'est-à-dire qui est aux manettes dans ces institutions, qui dirige l'autorité des marchés financiers. Est-ce que c'est quand même des personnes qui sont nommées par le gouvernement? Est-ce qu'il y a une forme d'auto-nomination? Comment ça se passe? Qui est là en fait?
Alors, c'est assez simple. En ce qui concerne l'AMF, l'autorité des marchés financiers, son président est nommé par décret du président de la République. Donc, tout ça s'exerce sous la houlette, évidemment, de l'État et des pouvoirs publics. Elle est composée de deux organes collégiaux. Un collège principal qui est l'organe décisionnel composé de 16 membres nommés par les représentants des pouvoirs publics et par les professionnels et une commission des sanctions qui comprend 12 membres distincts du collège qui dispose de l'autonomie de décision pour déclarer les sanctions en cas de faute sur les marchés financiers. Voilà, donc il y a effectivement un processus de nomination qui dépend partiellement des pouvoirs publics, mais ensuite un exercice indépendant.
Une fois nommé.
Et avec des fonctionnements de collège qui comprennent des personnalités, des experts venus d'horizons différents, y compris d'ailleurs des universitaires et des académiques, puisqu'on s'exprime vers le campus de Grenoble aujourd'hui, donc qui participent à ces instances. Et c'est le même principe pour la CPR dans le domaine bancaire et de l'assurance.
Ça fait un peu penser au CSA dans l'audiovisuel. Il y a quelque chose qui
ressemble. Hein, c'est un peu ça. Tout à fait. Ouais. C'est tout à fait. Ça fait tout à fait penser à ça. Alors, il faut quand même ajouter un point que vous m'avez pas encore posé, qui est que naturellement, de plus en plus de choses sont également organisées et décidées au niveau européen.
Oui, c'était ma question, effectivement. Est-ce qu'il y a une sorte de réseau des places financières, en fait? Et est-ce qu'il y a une organisation? Est-ce que c'est juste la grande concurrence, tout le monde essaye de tuer l'autre? Ou est-ce qu'il y a une mise en réseau et un fonctionnement collectif?
Alors, deux ordres de choses. D'abord, le point de la régulation, c'est-à-dire qu'une grande partie de la régulation maintenant est élaborée au niveau européen et votée au niveau européen. Et les autorités nationales dont on parle, AMF, ACPR et même le ministère des Finances en France, est en liaison avec les autorités européennes et ses équivalents européens. L'autre chose est que, tant au niveau des bourses, dont on parlait au début, que des places financières, Paris Europlace, oui, nous avons des coopérations et des alliances avec les autres bourses européennes. Le marché européen, c'est un mélange de ce que j'appelle compétition, coopération. Euronext, la bourse de Paris, est une plateforme pan-européenne. C'est d'ailleurs un pionnier dans le monde, associé aux bourses de Bruxelles, d'Amsterdam et du Portugal, Lisbonne, pour former une plateforme européenne et qui travaille sur le marché européen.
Donc il y a de la coopération, il n'y a pas juste de la compétition, quoi.
Tout à fait, et c'est pareil au niveau de Paris Europlace. Nous avons des dialogues réguliers avec les autres places financières européennes, y compris nos concurrents immédiats que sont Londres ou Francfort ou l'Italie, où je serai demain à Rome pour rencontrer mes alter-ego italiens.
D'accord. Merci Arnaud, on va faire une première pause musicale. On se retrouve dans quelques minutes après une petite piqûre de Girls in Hawaii et la chanson s'appelle « Shades of Time ».
Seem to me I do.
dans la fabrique politique. On parle aujourd'hui du monde de la finance et plus particulièrement de la place financière de Paris avec Arnaud de Bresson. On a parlé il y a quelques instants de l'ensemble de ces acteurs qui font cette place de Paris. Maintenant, on voudrait qu'on continue à travailler sur la question, enfin discuter de la question des institutions, de la place des institutions démocratiquement élues dans la place financière de Paris. Vous avez évoqué tout à l'heure le pouvoir législatif. Ça, c'est quelque chose sur lequel je voulais revenir un instant. Est-ce que, effectivement, nos élus, députés, sénateurs, ont un rôle à jouer dans la régulation de cette place financière et si oui, lequel? C'est quoi les lois qui vont venir intervenir dans ce monde-là?
Alors oui, le Parlement exerce évidemment un rôle majeur pour fixer les lois et les principes qui organisent à la fois les autorités, le fonctionnement des autorités et les orientations de la place financière. Par exemple, depuis 10 ans, c'est la loi de 2003 sur la sécurité financière votée par l'Assemblée nationale, par le Parlement, qui a fusionner les autorités de contrôle des marchés en un régulateur unique, l'autorité des marchés financiers. En 2010, c'est la loi de régulation bancaire et financière qui a renforcé la régulation des acteurs après la crise pour soutenir le financement de l'économie. En 2013, il y a eu la loi de séparation des activités bancaires pour mieux prévenir les résolutions des crises bancaires. Et puis plus récemment, on en reparlera tout à l'heure, mais la loi de 2015 qui a fixé les principes de développer la finance durable, un meilleur reporting sur notamment la contribution du secteur financier à la finance climat et environnementale. C'est un sujet qui nous occupe beaucoup et voilà, on en reparlera quand dans un instant. Ouais.
Alors ça veut dire, parce que c'est vrai qu'on critique souvent le manque de régulation des marchés, des banques, des institutions financières. On pense aux crises qui interviennent régulièrement et notamment à cette fameuse crise d'il y a une dizaine d'années, la crise des subprimes. Est-ce qu'on peut considérer qu'aujourd'hui on est mieux protégé qu'il y a 10 ans de ce type de crise? Et est-ce que vous pensez qu'il y a encore des progrès à faire dans ces histoires de régulation?
Alors là, peut-être deux choses. D'abord, moi, je voudrais souligner une particularité française qui est, depuis la crise, reconnue au plan international, c'est la qualité du dialogue entre les régulateurs et la place financière de Paris, les professionnels. Vous savez, au moment de la crise financière, Paris a mis en place un dispositif qu'aucune autre capitale du monde n'a été capable de mettre en place, c'est-à-dire un lieu de rencontre entre les régulateurs et les professionnels de la banque, de l'assurance, pour définir le processus de gestion de la crise. Et ça, c'est quelque chose qui nous est reconnu. Et la qualité des régulateurs de la place de Paris est un des atouts majeurs de la place de Paris, y compris aujourd'hui dans le contexte du Brexit. Alors maintenant, au plan global, au plan français, européen, international, comment les choses ont évolué depuis la crise financière et notamment depuis les subprimes, je crois que oui, on peut dire que beaucoup de progrès ont été faits, avec notamment 2 ou 3 points majeurs. D'abord, le renforcement de la solidité du système bancaire européen avec des normes qu'on appelle les normes de capitaux propres qui obligent les banques et les compagnies d'assurance à disposer de fonds propres plus importants pour pouvoir résister en cas de crise. La mise en place au niveau européen d'un système européen de gestion de la crise, qui est le mécanisme de stabilité européen, et dans la gestion d'actifs, notamment des nouvelles directives qui encadrent les gestionnaires de fonds et notamment les fonds alternatifs. Tout ça permet quand même de renforcer de manière importante les éléments de stabilité, même si ceci est encore insuffisant et il va devoir être complété. Car
complété par quoi, par exemple? C'est quoi l'idée? Il y a des projets en cours, il y a des pistes qui existent là pour creuser encore cette question de la régulation?
Vous savez, les nuages économiques qui apparaissent au plan international, les marchés émergents qui sont à plus haut risque, les nuages qui apparaissent au plan européen aujourd'hui, y compris au plan français, on en dira un mot, les gilets jaunes qui sont un vrai sujet de préoccupation, y compris pour nous naturellement, et auxquels on va essayer de contribuer positivement. Tout ça, c'est des nuages qui font que la crise, elle est toujours possible. Et donc, il y a évidemment encore des fragilités dans le fait qu'on a des entreprises de plus en plus grandes, bancaires, assurances, au plan européen, international, donc plus fragiles. Et puis on a le développement de ce que les Anglais appellent le shadow banking, qui est tout ce qui est la gestion alternative, les fonds, les hedge funds, tous ces fonds nouveaux alternatifs qui, pour l'instant, ne sont pas encore régulés.
C'est-à-dire qu'il y a une partie des acteurs qui échappent au phénomène de régulation, qui arrivent à se glisser entre les mailles de la régulation, c'est ça?
Voilà, c'est ainsi que la vie fonctionne. Et donc, nous poussons en tant que place financière et au niveau européen pour que des régulations adaptées soient également mises en place sur ces nouveaux acteurs qui, effectivement, apparaissent et qui, pour l'instant, sont un peu hors normes.
Et du coup, est-ce qu'il n'y a pas des places financières, pas forcément en Europe, mais partout dans le monde, qui jouent un peu le dumping et qui disent « venez chez nous, c'est moins régulé, vous serez tranquille ».
Oui, la réponse est évidemment oui, c'est notre préoccupation. Nous estimons que la compétition n'est pas équilibrée au niveau international entre l'Europe et les États-Unis, et notamment, évidemment, depuis l'élection de M. Trump, le risque est de voir le marché américain évoluer vers plus de souplesse en matière réglementaire, alors que l'Europe a des contraintes assez fortes.
C'est déjà le cas ou pour l'instant il n'a pas touché ?
Pour l'instant, les choses sont encore en discussion et n'ont pas encore été structurellement trop fortes. Mais il y a un risque devant nous. Et puis en Europe, nous avons, dans le contexte du Brexit, la possibilité qu'en fonction de la manière dont les choses évoluent, la Grande-Bretagne redevienne une place avec une régulation moins rigide que la régulation européenne, ce qui est une préoccupation. Nous sommes en faveur d'une régulation forte pour accompagner des marchés qui soient sains et équilibrés, mais évidemment on est obligé de jouer dans le jeu international et on ne peut pas non plus se mettre des boulets aux pieds dans la compétition mondiale, donc il faut arriver à trouver le bon équilibre et ça c'est la discussion européenne et internationale.
Et alors, je rebondis sur cette histoire de Brexit, ça veut dire par exemple dans l'accord qu'aujourd'hui Michel Barnier a mené pour l'Europe avec, la Grande-Bretagne, cet accord préserverait d'une certaine manière une forme de régulation. Par contre, si cet accord n'était pas tombé et que le Brexit était un Brexit dur, là, c'est là où on verrait un risque de dérégulation.
Exactement, tout à fait. L'accord tel qu'il est actuellement et tel qu'il a été conçu par l'Union européenne, la Commission européenne, d'ailleurs avec un remarquable accord des 27 pays européens, il est équilibré et il prévoit un régime dit d'équivalence, qui fait que les établissements qui continueront à travailler avec l'Europe en provenance de Londres devront répondre aux mêmes règles et de manière ceci adaptée dans le temps que les règles européennes, ce qui préserve un level playing field, comme on dit en bon français. Donc de ce point de vue-là, je pense que l'accord est équilibré. En revanche, si effectivement il y avait un hard Brexit, là, le risque serait que l'Angleterre reparte vers une situation de place financière offshore qui poserait des problèmes à nos acteurs industriels et financiers européens.
En Europe, ouais. Avant de refaire une petite pause musicale et de s'attaquer aux grands enjeux de société et de la place de la finance dans ces enjeux, un mot sur le rôle de Paris Europlace que vous dirigez. Donc, vous avez déjà évoqué à plusieurs reprises ce que vous essayez de défendre au sein de ce grand univers des places financières. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ?
Donc Paris Europlace, c'est une structure qui a été créée il y a une vingtaine d'années, avec un modèle original qui a visé à mettre au premier rang les entreprises industrielles au sein de la place financière et à construire une place financière qui serve les entreprises et les ménages et pas uniquement les besoins des banquiers entre eux, et qui aujourd'hui développe trois grands types d'activités, une activité de dialogue permanent avec les pouvoirs publics et les autorités de régulation, justement, y compris pour pousser les réformes et améliorer l'attractivité de la place financière, sujet qui était assez fondamental, y compris dans le contexte du Brexit. Deuxièmement, accélérer nos chantiers industriels. Nous avons une douzaine de chantiers industriels et parmi nos priorités aujourd'hui, il y en a trois, j'y reviendrai. Il y a tout ce qui est innovation financière, fintech, développer les startups dans le secteur financier, technologie. Deuxièmement, finance durable, solidaire, environnementale, tout ce qui est climat, mais également la finance de solidarité. Et enfin, troisièmement, développer le financement des projets d'infrastructure. Ce sont ça nos priorités industrielles pour la place de Paris.
Ok, effectivement, on reviendra sur la question du développement durable dans un instant. En attendant, on fait une petite pause, une nouvelle pause musicale, cette fois avec les Pixies, la version acoustique de Wave of Mutilation. Vous êtes toujours sur Radio Campus 90.8, c'est la fabrique politique, et le dossier du jour, les rouages du monde de la finance. Arnaud de Bresson nous accompagne, dont l'entreprise s'occupe chaque jour de consolider la place de la France dans ce grand circuit de la finance internationale. Alors Arnaud, j'aimerais qu'on se penche maintenant sur la question du rapport des citoyennes et des citoyens au monde de la finance. On a une image habituelle qui est plutôt celle d'un fossé qui séparerait le peuple de ce microcosme des premiers de cordée, pour reprendre une image chère à notre président. Mais voyons ça de plus près. À part subir les aléas des marchés de manière un peu passive, est-ce que pour vous, les citoyens sont acteurs de la place financière? Et si oui, de quelle manière?
Alors, la réponse est oui, mais pas encore suffisamment, bien sûr. Et je pense évidemment aux citoyens qui ont des ressources faibles. Henri, il y a deux sujets. Il y a les épargnants qui épargnent, qui placent en bourse.
Oui, donc eux, ils agissent par leur épargne.
Ou qui ont des prêts, ou qui reçoivent des prêts bancaires, ou qui participent à l'économie, à leur entreprise. Alors, aujourd'hui, on voit se développer un sujet intéressant, ce qui est l'épargne salariale, c'est-à-dire la manière dont les salariés des entreprises sont accompagnés par leur entreprise pour pouvoir compléter leur rémunération par de l'épargne, par de l'actionnariat dans leur entreprise ou autour de leur entreprise, et donc participent à investir en bourse. Et cette épargne salariale, elle se développe de manière très forte. D'accord. Depuis plusieurs années. Elle va être encouragée par le projet Pacte. C'est une manière de mieux intégrer les citoyens justement aux investissements en bourse et en actions des entreprises, qui est un moyen de financer notre économie. Il est très important que les citoyens et le grand public participent le plus possible. Alors, à l'autre bout, évidemment, vous évoquez les premiers de cordée, il y a ceux qui sont dans le besoin et pour lesquels la place financière a un rôle à jouer et que nous essayons de jouer, je crois, plus fortement à Paris qu'ailleurs. Depuis l'origine, depuis une vingtaine d'années, nous avons mis en place toute une action, une réflexion, une action pour développer, l'investissement socialement responsable, 2, la finance environnementale, et 3, la finance de solidarité, c'est-à-dire des mécanismes de microcrédit, d'épargne de proximité, aujourd'hui de crowdfunding.
Ça, c'est la partie finance de solidarité. Et c'est quoi la partie investissement? Le premier, vous avez dit l'investissement à vocation sociale.
L'investissement socialement responsable,
oui, socialement responsable,
c'est la manière dont les investisseurs institutionnels, c'est-à-dire les sociétés de gestion, les compagnies d'assurance, investissent de plus en plus une partie de leurs fonds dans des projets qui ont une dimension sociale, qui peut être sociale ou environnementale d'ailleurs, et qu'on appelle l'investissement socialement responsable. Cet investissement socialement responsable, il représente aujourd'hui environ le quart de l'investissement des sociétés de gestion françaises, 1 000 milliards sur les 4 000 milliards dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est encore trop peu, et nous essayons de faire en sorte d'ailleurs que l'ensemble de l'investissement puisse avoir une connotation et un contenu surtout social. Donc nous poussons, et la place de Paris pousse ce sujet. J'en profite pour dire d'ailleurs, permettez-moi, que le malaise social, la crise sociale d'aujourd'hui, les gilets jaunes, la place financière de Paris comme les entreprises, nous estimons que nous avons une responsabilité et que nous devons naturellement entendre, je dis bien, ce message et cette difficulté des gens au jour le jour, notamment dans les régions françaises. C'est un sujet que nous entendons, que nous écoutons, que
et
nous
alors,
connaissons.
Comment vous faites pour mieux connecter finalement le monde de la finance à ce monde-là, à ce monde qu'on décrit avec le gilet jaune, mais en fait qui est tout simplement le tissu social de notre pays? Cette histoire de connexion, moi ça me travaille, je me dis il y a quand même quelque chose à faire sur cette idée, ne serait-ce qu'en termes de connaissance, c'est-à-dire que effectivement c'est un monde qui est encore très peu connu, qui a l'air très mystérieux, très opaque. Connaître, intervenir, se connecter, qu'est-ce que vous en pensez de cette histoire de connexion?
Alors d'abord, mettre en place des instruments d'accompagnement, hein, j'en ai parlé, donc l'épargne salariale, l'épargne de proximité, le microcrédit, la France est en première position au niveau européen. Ce sont des crédits à des taux extrêmement avantageux, proches de zéro, accordés à des individus ou à des petites des initiatives d'entreprise à des conditions extrêmement avantageuses pour permettre de mettre des ressources à très très faible rémunération, proche de 0% en termes de taux de crédit. Ce sont des instruments que la place financière développe et continue de développer. Mais alors, dans votre question, il y a un autre sujet qui est effectivement l'éloignement, la difficulté de comprendre. Et c'est vrai que nous avons, surtout en France, malheureusement, et comparé aux autres pays, y compris autour de nous, l'Allemagne, l'Angleterre, on a un besoin de renforcer l'éducation et la formation à ces sujets qui ne sont pas si complexes que ça quand on parle de produits simples. Il ne s'agit pas évidemment des marchés les plus compliqués. Vous savez, je rencontrais hier la patronne d'une start-up africaine d'ailleurs qui a lancé une petite entreprise qui a pour but de développer l'éducation des enfants, avec l'aide de leurs parents d'ailleurs, à se constituer un petit porte-monnaie, à comprendre ce que c'est que justement un prêt bancaire ou investir dans un petit placement en bourse, des choses comme ça. Et elle me disait, si on veut que les enfants et les adultes demain ne soient pas dépassés par ce que représente l'argent, il faut qu'ils le maîtrisent. Mmh. C'est ça le cœur du sujet. Je pense qu'aujourd'hui en France, nous avons malheureusement un déficit de formation et d'information à la fois dans nos écoles, un peu moins dans les universités qui, elles, maintenant, sont beaucoup plus qualifiées et même très qualifiées dans le monde, mais surtout au plan de l'éducation scolaire dans ces domaines. Et je crois que c'est un sujet sur lequel il faut qu'on arrive à avancer. Nous avons essayé à plusieurs reprises, c'est compliqué, mais je pense que c'est un sujet très important pour l'avenir.
Oui, et puis ça va de pair avec cette image de l'entre-soi, c'est-à-dire qu'on imagine, quand on n'y est pas, ce microcosme où se croisent les grands patrons, les dirigeants de banque, les hommes et les femmes politiques, et ça nourrit aussi cette idée du fossé. Et effectivement, je pense que ce que vous dites, ça fait référence à une capacité d'intervention, c'est-à-dire comment on donne finalement à un cercle beaucoup plus large le sentiment d'avoir la capacité d'intervenir. Ça me semble effectivement essentiel.
Tout à fait. Et il est vrai que le langage, les termes, les technologies appliquées peuvent être complexes dans certains domaines de la finance. Mais il y a d'abord une finance beaucoup plus de proximité qui existe et beaucoup plus simple d'accès. Il y a différentes finances pour différents types de besoins, différents types de publics. Il faut par contre que sur la finance de proximité, chacun puisse comprendre de quoi il s'agit et l'utiliser. C'est déjà la première étape à accomplir.
Alors parlons un peu d'écologie maintenant et de développement durable, on l'a évoqué très rapidement tout à l'heure. C'est vrai que là, la finance, l'image aussi qu'on en a, c'est du court terme. Gagner de l'argent le plus vite possible sur les places financières. Et donc on a une image assez peu compatible avec le long terme, avec le développement durable. Est-ce que vous sentez une prise de conscience à la matière chez les acteurs de la place financière? Est-ce que vous estimez qu'il y a un rôle à jouer? Est-ce que vous arrivez à plier un petit peu la place financière dans cette direction?
Alors, je reviens toujours à mon modèle de la place financière Europlace, tel que nous l'avons créé en 1993, dirigé vers les besoins des entreprises, vers le long terme. Nous avons toujours, nous, voulu soutenir le long terme et développer le long terme. Et aujourd'hui, développer cette finance durable, donc sustainable en anglais, qui comprend les différentes composantes, dont la finance climatique et environnementale dont vous parlez. La place de Paris est leader mondial en matière de finances environnementales, ceci depuis accéléré évidemment par la COP21, mais nous avions commencé notre action dès le début des années 2000, donc pas de la dernière pluie, c'est le cas de le dire, en matière de climat. Nous avons développé un effort progressif très important et qui nous place aujourd'hui en leader mondial. Alors de quoi s'agit-il? Il s'agit de la manière dont les investisseurs aujourd'hui se retirent des secteurs à empreinte carbone, notamment l'industrie du charbon, et orientent leur portefeuille vers des produits à impact carbone limité. On appelle ça décarboner les portefeuilles d'investissement. Ça concerne les assurances et les sociétés de gestion d'actifs. Les entreprises qui émettent des obligations environnementales, c'est-à-dire des prêts dirigés vers des projets environnementaux. La France est leader mondial avec la Chine, devant les États-Unis, qui ont quitté le périmètre depuis l'élection de M. Trump. Et donc, ceci nous donne une carte importante à jouer, mais également à travers le développement de produits de couverture de risques environnementaux par les compagnies d'assurance, la création de fonds d'investissement dédiés Amundi, qui est un des grands gérants français, a créé un fonds spécifique avec la Banque mondiale, 100 millions d'euros, destiné à financer des projets environnementaux. Voilà tout ce que nous faisons et nous avons organisé encore, là, ça, il y a une dizaine de jours, un très grand Climate Finance Day à Paris qui a réuni plus de 1000 participants mondiaux. C'est la 4e édition pour parler de ces sujets et voir comment l'industrie financière pousse. Il y a encore beaucoup de chemin à faire et malheureusement, nous sommes encore loin de l'objectif des 2 degrés fixé par la COP21. Il faut encore aller plus loin et développer encore plus ces investissements. Nous essayons de pousser et je peux vous dire que Paris Europlace, y compris à travers l'initiative spécifique qu'on a créée là-dessus qui s'appelle Finance for Tomorrow, pousse la charrette pour essayer que ces sujets avancent.
Et alors, c'est vrai qu'on se dit que, bon, il y a eu la COP21, et puis on a l'impression que ça va, enfin, qu'il y a un peu des allers-retours. C'est vrai que le positionnement des États-Unis est quand même très troublant. Il n'y a pas un côté un peu décourageant parfois de se dire on avance de 2 pas et puis on recule. Vous voyez quand même si vous vous dites, tiens, dans les 10 ans à venir, vous avez bon espoir qu'il y ait vraiment des marches qui soient franchies?
Écoutez, il faut jamais se décourager, y compris aujourd'hui, avec les événements autour de nous qui sont un peu perturbants hein, pour les entreprises françaises. Et il faut toujours aller de l'avant, naturellement. Et donc, nous, notre objectif, c'est d'essayer d'accélérer les choses. Nous savons qu'il faut aller beaucoup plus fort, beaucoup plus vite encore. D'ailleurs, le président de la République l'avait dit lors du One Planet Summit l'année dernière. Il faut que les investissements se développent de manière encore plus rapide. Nous poussons, nous le poussons en France, nous le poussons au niveau européen, nous le poussons dans le dialogue international, y compris avec la Chine, qui est évidemment la future économie du monde, avec nos contacts aux États-Unis et en Europe, pour que cette démarche s'élargisse. C'est la condition pour que ce sujet progresse. C'est pas simple, et d'ailleurs, la COP25 qui se déroule en ce moment, 24 en Pologne, semble montrer des difficultés. Donc, il faut aller plus fort, plus loin. Et nous sommes, nous, prêts à dialoguer avec les uns et les autres. La place de Paris est déterminée dans ce domaine.
Bon, eh bien, bon courage. Merci beaucoup. C'est la fin de cet entretien. Merci beaucoup, Arnaud de Bresson, pour tous ces éclaircissements. Et puis, pour nous, chers auditeurs, on se retrouve dans un instant pour la chronique Pendant ce temps à Veracruz. Avant cela, un petit conseil littéraire, une fois n'est pas coutume dans la fabrique politique. C'est un livre de Fernando Pessoa qui s'appelle Le banquier anarchiste. Je vous le recommande vivement. C'est un petit livre merveilleux. Et puis, parce qu'on est dans l'anarchie, une chanson que j'aime particulièrement, une version live de Renaud, c'est Où c'est que j'ai mis mon flingue.
Je veux que mes chansons soient des caresses ou bien des poings dans la gueule à qui que ce soit que je m'agresse. Je veux vous remuer dans vos fauteuils. Alors écoutez-moi un peu les pouces mégots et les nez de beaux, les ringards, les folques, les journaleux. Puis qu'il y a mon nom dans vos journaux, qu'on voit ma tronche à la télé, ou genre ma soupe empoisonnée. Vous m'avez un peu trop gonflé. Je suis pas chanteur pour mes copains et je peux être teigneux comme un chien. Je déclare pas avec Aragon que le poète a toujours raison. La femme est l'avenir des cons et l'homme n'est l'avenir de rien. Moi mon avenir est sur le zinc d'un bistrot les plus cralingues des bordels. C'est que j'ai mis mon flingue. Je vais pas me laisser emboucaner par les fachos, par les gauchos, tous ces pauvres mecs endoctrinés qui foutent ma révolte au tombeau, tous ceux qui me traitent de démagos dans leurs torchons que je n'irai jamais. Renon c'est mort, il est récupéré. Tous ces petits bourgeois incurables qui parlent pas, qui écrivent pas, qui bavent, qui vivront vieux leur vie minable, ont tous dans la bouche un cadavre. De toute façon je chante pas pour ces blaireaux et j'ai pas dit mon dernier mot. C'est sûrement pas un disque d'or ou un Olympia pour moi tout seul qui me feront virer de bord, qui me feront fermer ma gueule. Quand il y aura de la haine dans mes seringues, je ne chanterai que pour les dingues, les bordels. Où c'est que j'ai mis mon flingue? Y'a pas que les mômes dans la rue qui me collent au cul pour une photo. Y'a même des flics qui me saluent, qui veulent que je signe dans leur calot. Moi je crache dedans et je crie bien haut que le bleu marine me fait gerber. J'aime pas le travail, la justice et l'armée. C'est pas demain qu'on verra marcher avec des connards qui vont aux urnes choisir celui qui les fera crever. Moi ces jours-là je reste dans ma turne, rien à foutre de la lutte de classe. Tous les systèmes sont dégueulasses. de pas encaisser les drapeaux, quoi que le noir soit le plus beau. La Marseillaise, même en reggae, ça m'a toujours fait déjoler. Les marches militaires, ça me déglingue, et votre république, moi je la tringle. Mais bordel, où c'est que j'ai mis mon flingue? Puis qu'on m'a tiré mon canif un soir au métro Saint-Michel. Je fous plus les pieds dans une manif, sans un nunchak ou un cocktail, à Longwy comme à Saint-Lazare. Plus de slogans face aux flicards, mais des fusils, des pavés, des grenades. Violés contre la répression, en défilant Bastille Nation. Quand mes frangins crèvent en prison, ça donne une bonne conscience aux cons, aux nez de bœufs et aux pouces mégots qui foutent ma révolte au tombeau. Si un jour je m'en trouve la gueule par terre, sur ça sera de la faute à Baler. Si je crève le nez dans le ruisseau, sur ça sera de la faute à Bono. Pour l'instant ma gueule est sur le zinc d'un bistrot des plus cralingues. Mais faites gaffe, j'ai mis la main sur mon flingue.
Vous êtes toujours dans la fabrique politique sur Radio Campus 90.8. Et c'est la chronique. Pendant ce temps, à Veracruz. Alors, je vous ai trouvé un article qui parle de la crise financière en Irlande et plutôt des conséquences longtemps après. L'article vient d'un quotidien irlandais et il s'appelle Irlande. 10 ans après la crise, l'ex-patron d'une banque envoyé en prison. Il est publié en juin dernier. David Drum, ancien directeur général de l'Anglo-Irish Bank, a été reconnu coupable d'avoir maquillé les comptes de l'établissement en gonflant artificiellement de 7,2 milliards d'euros ses dépôts réels. Il a été condamné à 6 ans de prison. La mort du tigre celtique avec la crise financière de 2007-2008 continue de secouer l'Irlande. Après la condamnation de 2 dirigeants de l'Anglo-Irish Bank à purger une peine de prison, c'est au tour de l'ex-directeur général de l'établissement de rendre des comptes à la justice irlandaise. Au terme d'un procès de 87 jours, le verdict est tombé. Mercredi 21 juin, 6 ans de prison assorti d'un mandat de dépôt. David Drum vient donc de passer ses premières nuits derrière les barreaux à Dublin. Pour bien des gens, Drum est l'homme du crack économique irlandais et il semblait donc logique que sa peine soit plus lourde, et même la plus lourde jamais infligée pour une malversation financière en Irlande. C'est le plus jeune directeur de banque du pays au moment de sa prise de fonction en 2004, il avait alors 37 ans. David Drum, qui en a 51 aujourd'hui, était poursuivi donc pour fraude et faux en écriture. C'est Drum qui était à la manœuvre derrière les transactions qui ont permis de gonfler artificiellement les comptes de la banque à hauteur de 7,2 milliards d'euros en 2008, alors que la banque était au bord du gouffre, détaille le quotidien dublinois. Particulièrement exposé à la bulle immobilière, l'établissement bancaire avait ensuite dû appeler l'État à l'aide avant de fusionner avec l'Irish Nationwide Building Society en 2011. Pourtant, à l'automne 2008, la panique générale sur les marchés ne semblait pas inquiéter David Drum. Le Irish Independent raconte comment, le 5 septembre 2008, le directeur général a décidé de dépenser sans compter pour remonter le moral de ses troupes en organisant une énorme fête pour ses salariés. L'invitation était ainsi formulée. Chers collègues, la bourse est en baisse, l'économie est apparemment en récession, il a plu tout l'été, les vacances sont finies. Mais nous sommes chez Anglo, alors il n'y a qu'une chose à faire, la fête. Au total, la banque a dépensé 24 000 euros en boissons pour organiser cette soirée. Une somme proche, remarque le journal, de celle déboursée par chaque contribuable irlandais pour renflouer les caisses de l'Anglo-Irish Bank à hauteur de 32 milliards d'euros. Voilà comment la crise intervient, comment finalement on arrive parfois à rattraper ceux qui en étaient responsables avec une certaine forme de justice ou du moins de régulation. C'est la fin de cette émission. Merci encore à Arnaud de Bresson d'avoir été notre invité. Vous retrouverez ce podcast sur le site internet de Radio Campus Grenoble. Quant à moi, je vous souhaite une bonne année et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode de La Fabrique Politique. Merci.